France Inter, le 18-20.
Et réjouissez-vous, vous êtes une mère parfaite et un père parfait aussi. Vous suivez les devoirs, vous allez au sport, le lundi c'est judo, le mercredi c'est la danse, le jeudi le piano pour la plus petite. D'ailleurs, faudra demander à la nounou de rester un peu plus à cause du gala du grand. Il y a un post-it sur le frigo, vous cuisinez évidemment bien sûr. Et bio, pas de plat préparé pour les enfants, vous gérez, vous maîtrisez, vous êtes parfaite et parfait. Y compris ce rendez-vous chez le dentiste qui vient de se greffer sur cet emploi du temps, y compris quand vous courez derrière tout le monde le matin pour l'école, y compris quand vous essayez de ne pas perdre votre calme. Parce que Théo se roule par terre chez Monop ou que Léa a encore vomi dans le bus. Vous êtes parfaite et parfait. Mais d'où vient cette fatigue, alors cet épuisement qui fait que vous n'aimez jamais autant vos enfants que quand ils dorment? Ça s'appelle le burn-out parental. Les psys savent de quoi on parle, mais c'est presque un tabou. On doit tellement être parfait quand on est parent. Et on va pas se laisser déborder par une petite qui, après tout, n'a que 5 ans. Eh ben si, ça existe. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Nos voisins, sans le dire, sont d'ailleurs sans doute comme nous. Et vous qui n'avez pas d'enfants, appelez-nous aussi au lieu de lancer à ces pauvres parents des regards de pitié.
Fabienne Saint-Esse. Le téléphone sonne.
Bonsoir Marion, c'est vous la première. Profitez-en, allez-y, on vous écoute.
Bonsoir, je suis Marion. Alors chez nous, il y a 5 enfants, c'est une grande famille. Des enfants qui vont entre 15 ans, donc joie de l'adolescence, et 3 ans et demi. On sort tout juste de la petite enfance, nous travaillons tous les deux et nous sommes fatigués. On vit exactement ce que vous venez de décrire. Après, c'est une grande joie aussi d'avoir une grande famille, mais c'est une grande fatigue. Et effectivement, on sent notamment sur les réseaux sociaux, quand on a un peu de temps libre, on réussit à aller sur les réseaux sociaux et il y a toute une image surtout de la mère, les blogueuses qui auto-entretiennent une image de la mère un peu parfaite, qui ne doit pas crier, qui sourit, qui effectivement cuisine des plats. Alors on a beau savoir que ce n'est qu'une image, que c'est qu'une petite partie, ça rajoute, je trouve, de la culpabilité à la fatigue. Parce qu'au final, on fait ce qu'on peut, et ce qu'on peut, c'est pas toujours terrible, mais c'est ce qu'on peut.
Comment vous faites, Marion, quand ça devient trop compliqué, que vous avez besoin de laisser vos 5 enfants quelque part? Est-ce que c'est chacun votre tour avec votre mari? Est-ce que vous arrivez à vous trouver des plages où vous êtes que tous les deux tranquillement? Comment ça se passe?
Alors, c'est compliqué. On compose. On a un réseau d'amis. On a un réseau d'amis qui ont aussi beaucoup d'enfants. Donc, on essaye de se refiler tant qu'on peut, les gosses les uns les autres. Et ça marche pas toujours bien. Après, on a une grand-mère qui est pas très loin, mais c'est compliqué de caser tout le monde. Mais la grande commence un petit peu à garder les plus petits. Et puis, on a une babysitter aussi.
Merci beaucoup Marion pour cette entrée en matière, parce que c'est exactement ça, 5 enfants entre 15 et 3 ans, chacun vous tire le chapeau. Merci beaucoup pour répondre à vos interrogations, à votre témoignage, et pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Liliane Holstein est avec nous, bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne.
Psychanalyste pour adultes et aussi pour enfants. Vous avez écrit d'ailleurs le burn-out parental et c'est publié chez Josette Lyon. Elle a un peu tout résumé, Marion. En effet, il y a une chose qui m'intéresse dans ce qu'elle dit, c'est la pression autour, ces blogueuses formidables qui nous expliquent, qui arrivent à jongler, tout ça est fort bien. En plus, elles sont super bien maquillées. C'est compliqué quand on est parent normal d'être confronté à cette image-là.
Oui, c'est difficile parce que ce n'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Dans la réalité, Marion le dit très bien, puisqu'elle a des enfants de l'âge de 3 ans, je crois, jusqu'à quel âge?
3-15 ans.
3-15 ans. Donc vous avez l'éventail parfait des difficultés des parents et surtout des mères. Non, on ne peut pas être au top en permanence quand on a 5 enfants entre 3 ans et 15 ans. C'est impossible. Vous gérez en fait en permanence sur tous les plans et très souvent avec le besoin de perfection qui est la problématique principale des parents qui sont en burn-out parental.
Est-ce que, on demandait à Marion à l'instant, est-ce qu'il faut vraiment se réserver des plages? Alors c'est compliqué quand il y en a 5, hein,
oui,
mais il faut vraiment arriver à se réserver des plages de solitude.
C'est simplement vital, c'est simplement vital. Et non seulement des plages pour soi toute seule en tant que mère, mais également des plages pour son couple.
Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas une mauvaise mère si on laisse les enfants une journée, deux journées, une semaine pour les vacances.
Au contraire, bien entendu. Et il faut même imaginer que c'est une bulle de respiration pour les enfants également. Hein, donc c'est absolument indispensable. Et moi j'insiste très souvent pour que les deux parents puissent être seuls et tranquilles à certains moments. C'est vraiment indispensable parce que le couple en prend vraiment un coup très important dans cette parentalité.
Beaucoup de témoignages au 01 45 24 7000 et c'est tant mieux, c'est fait pour ça. Bonsoir Amira.
Bonsoir Fabienne.
On vous écoute, Amira, allez-y.
Je vous remercie de me recevoir. Alors, je vous appelle parce qu'il y a plus d'un an, j'ai vécu un burn-out parental assez important. J'ai quatre enfants, enfin deux enfants à moi, plus mon conjoint, on se retrouve à quatre enfants, donc de 3 à 18 ans. Et puis l'an dernier, j'ai accumulé une très grosse fatigue suite à deux allaitements prolongés, un poste à responsabilité et puis pas mal de soucis comme toutes les mères qui veulent être parfaites. Et je me suis retrouvée dans un état de santé assez grave en fait, des somatisations très importantes avec des symptômes de sclérose en plaques, des pertes de cheveux par paquet et une fatigue dont je n'arrivais absolument pas à me remettre. La boule au ventre quand je rentrais le soir chez moi pour retrouver mes enfants et ma seule hâte en fait c'était qu'ils dorment et qu'on me laisse tranquille. Mmh. Je me suis isolée de tout mon entourage, je supportais plus personne et ce qui m'a sauvée en fait c'est de comprendre que je serais jamais parfaite et qu'il fallait pouvoir à un moment dire stop et puis apprendre à déléguer.
Et alors du coup comment vous faites mieux maintenant? Qu'est-ce que vous faites mieux selon vous Amira avec vos enfants?
Alors déjà j'ai compris que j'arriverais pas à tout gérer, j'ai arrêté les inscriptions à toutes les sorties possibles et inimaginables tout le temps le week-end. Et puis, j'ai appris aussi à prendre du temps pour moi. J'ai développé des outils de relaxation. Je fais de la méditation de pleine conscience. J'ai découvert les fleurs de Bach. Et puis maintenant, j'échange auprès des mamans qui vivaient un peu la même situation. Sur les réseaux sociaux, je me suis mise à me rendre compte qu'en fait, qu'on était tous dans la même situation. Mmh. Et que si on s'ouvrait et qu'on communiquait, ça permettait de se sentir moins seule déjà. Et puis d'accepter qu'on était toutes humaines et pas surhumaine.
Merci beaucoup Amira, et c'est vrai, elle a raison Amira, il faut échanger avec d'autres, et effectivement, oui. Pas lire les fameux blogs dont on parlait, mais échanger avec d'autres.
Absolument, parce que le problème principal des mères en burn-out parental, c'est le repli sur soi, c'est la solitude, donc c'est vraiment très important de pouvoir en parler déjà avec son conjoint dans un premier temps, mais aussi avec d'autres parents, parce que c'est vrai qu'il y a un tabou sur le sujet. On veut toujours montrer une image parfaite à l'extérieur, même quand à l'intérieur, c'est en pleine décrépitude sur le plan psychologique. Donc, on est juste des êtres humains. On a tous des faiblesses et fragilités, et c'est important de pouvoir en parler avec d'autres personnes.
Ce que décrivait Amira, perte de cheveux, boule au ventre, fatigue extrême, est-ce qu'on sait tous, est-ce qu'un parent sait reconnaître que c'est un burn-out parental en fait qu'il est en train de faire, c'est les enfants qui deviennent compliqués?
Pas forcément, figurez-vous, parce que même très souvent, plus le burn-out est important et plus les mères sont en hyperactivité. C'est assez étonnant, mais elles se comportent...
Plus on en fait trop, plus on veut en faire trop.
Oui, donc absolument, et c'est un fonctionnement vraiment en fourmi qui galope dans tous les sens, qui peut être en véritable effondrement interne et qui extérieurement montre une image de mère omnipotente, toujours en train d'organiser des goûters pharaoniques, des vacances, des activités, etc. Donc il faut vraiment se méfier de cette hyperactivité. En général, ça cache tout un tas de symptômes internes. Il faut vraiment faire attention.
Amira, vous vouliez rajouter quelque chose? Je vous en
prie.
Oui,
je voulais rajouter en fait que moi j'ai créé une page Facebook en fait pour partager un peu mon ressenti. Okay,
c'est bien,
j'ai mis
oui.
des vidéos pour que les mamans puissent trouver des petits outils. Donc si je peux partager
allez-y,
ça avec
allez-y,
personnes.
Bien sûr. Comment elle s'appelle votre page?
Alors c'est l'harmonie par les fleurs de Bach et je suis Amira Fleur de Bac, et donc il y a plein de conseils gratuits, des aides, et puis on est une petite communauté en fait maintenant à essayer de lancer des petites choses pour aider les mamans au quotidien et à se rendre compte que l'épuisement parental ça peut toucher tout le monde mais qu'on peut s'en sortir.
Eh ben écoutez, le message est passé, merci beaucoup Amira, j'allais dire bon courage mais visiblement vous avez compris le chemin, vous donc tout va bien. Bonsoir Gwen. Gwen?
Oui, bonsoir.
Bonsoir Gwen, on vous écoute, allez-y.
Merci beaucoup d'accueillir mon témoignage et bravo pour vos émissions surtout. Moi, c'était, comme je disais, juste un témoignage dans le sens où je suis pas au bord du burn-out parental. Par contre, je vis très très mal le fait que la société autour de nous, il me semble, a tendance à demander à ce que l'autorité parentale soit diminuée. Et dans certains cas, il me semble que les enfants ont aussi besoin de cadres. Et c'est vrai que souvent, quand je reprends mes enfants en public, on me reprend là-dessus, on me le fait remarquer en me disant que je suis trop dure. J'admets que je suis assez rigide avec eux, mais j'estime aussi qu'il faut les préparer à leur vie de grand. Et nous, entre adultes, on sait tous que on n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Et donc, un caprice, c'est pas toujours autorisé. Donc, c'est vrai que si je dois dire non à un enfant qui se met même à pleurer, à faire littéralement un caprice, voire une scène théâtrale, moi, en tant que maman, j'ai le droit de lui dire non, j'accepte pas.
Et vous sentez autour de vous les regards dès lors que vous engueulez votre gamin en public, par exemple?
Ah, mais c'est beaucoup plus que des regards. Mmh. C'est même fréquemment des commentaires en me disant que voilà, vous voyez bien qu'il souffre, entendez les hurlements, et je suis là, oui, mais j'entends les hurlements, mais entre-temps, vous comprenez que c'est pour un bonbon. Mmh. Donc, je vais rester sur le nom, et ça vous regarde pas, je ne vous connais même pas, donc je vois pas pourquoi on devrait en parler ensemble. Je trouve que vraiment, dernièrement, alors je conçois que forcément, la société évolue, et j'en suis ravie. Donc maintenant, on essaye de limiter aussi des sévices qui ont pu avoir lieu dans le cadre familial. Et c'est tant mieux, évidemment, c'est une immense évolution. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas le droit de reprendre ses enfants. Et si on estime qu'ils sortent du cadre de l'éducation, eh ben, il faut qu'on puisse le leur dire. Et évidemment, les enfants vont réagir, mais il faudrait aussi laisser la possibilité aux parents de le leur, je ne vais pas dire imposer, mais de leur faire comprendre au moins.
Merci Gwen Lienholstein. Il y a une espèce de courant aujourd'hui qui dit d'ailleurs, moins on crie sur les enfants, mieux on se porte. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce qu'il faut effectivement laisser Gwen les engueuler de temps en temps? Parce que de toute façon, à un moment, il faut que les choses soient dites.
Mais à certains moments, bien entendu, il faut élever le ton, il faut mettre un cadre, c'est fondamental. Les dernières années, dans les années 80-90, on a tout laissé aller, et on voit bien qu'il y a vraiment des sacrés problèmes dans les comportements des enfants. Il faut vraiment se dire que les enfants ont besoin d'un cadre vraiment fait d'amour, bien entendu. Il faut tout le temps avoir des manifestations de tendresse, mais aussi montrer le cadre. C'est absolument indispensable. Et vous disiez, Gwen, que...
C'est traumatisant pour un enfant de se prendre une avoinée, pardon de le dire
mais
comme
pas
ça.
Du mais tout, pas du tout. Et je dirais même qu'il en a besoin, dans la mesure où il n'y a pas de violence, bien entendu, mais vraiment un cadre fermement posé. Les enfants attendent ça. Et la preuve en est que moins ils ont de cadre, et plus ils débordent dans tous les sens. Et tous les enfants que l'on voit complètement surexcités faire des crises dans les magasins, se rouler par terre, frapper les parents, on voit des parents en longueur de journée en consultation qui sont frappés, violentés par des enfants. Ce sont des enfants qui ont des parents qui ne mettent jamais de cadre. Et les pulsions internes des enfants sont tellement parfois violentes et contradictoires qu'ils ont besoin de la force de leurs parents. Ils ont besoin de parents charismatiques pour pouvoir les rassurer, pour pouvoir leur permettre de grandir correctement. Donc un cadre, c'est important, c'est fondamental, bien sûr, avec de la tendresse à chaque fois.
Et alors en parlant de cadre, Lienholstein, qu'est-ce que la psychanalyste que vous êtes pense de la fessée, puisque c'est aussi l'un des débats du moment, ça?
Oui, ben, il y a fessée et fessée. Mmh. Vous voyez, les parents qui sont en situation de burn-out parental ont parfois attendu avant de mettre un cadre, et ils finissent par en arriver à des violences extrêmes. J'entends ça tous les jours en consultation, des parents qui n'imaginaient pas une seconde un jour en arriver à insulter leurs enfants, à les tirer par le bras, à les griffer, à les frapper, etc. Des gens qui avaient des convictions philosophiques fondamentales sur le sujet, qui sont effarés de voir à quel point ils sont obligés de déborder, justement parce qu'ils n'ont pas, dès le départ, instauré des limites et des bonnes limites aux enfants.
Mais vous êtes en train de nous dire que tout se joue extrêmement vite, en fait. C'est à quel moment? Ou est-ce qu'on peut remettre des limites en place quand l'enfant a 5 ans, 6 ans, je ne sais pas, 7 ans?
Ben, on peut toujours remettre des limites en place. Hein. Rien n'est jamais perdu, rien n'est désespéré. Même chez un adolescent, il y a toujours moyen de remettre des choses en place. Mais effectivement, dès le plus jeune âge, et notamment au moment où les enfants commencent à développer leur propre personnalité, vers 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut commencer à mettre des limites. Les enfants ont besoin de savoir ce qu'ils ont le droit de faire et de ne pas faire.
Jean-Robert nous rappelle que Françoise Dolto disait que si on avait envie de jeter ses enfants par la fenêtre, c'est normal, mais si on passe à l'acte, c'est
grave. Très embêtant. Oui, bien sûr.
Bonsoir Henri.
Oui, bonsoir. Bah, écoutez, c'est amusant ce que vous venez de dire parce que je voulais justement témoigner là-dessus. En fait, j'ai eu 2 enfants, des jumeaux, assez tardivement. J'avais 53 ans et ça a été terrible. Ça a été l'horreur. D'abord, on s'y est pris comme des manches, moi et ma compagne. En plus,
ça veut dire quoi comme des manches, Henri?
Quand j'y pense, quand je pense à ce qu'on faisait, ma petite fille régurgitait et mon petit garçon avait des coliques, donc il pleurait sans arrêt.
D'accord.
Donc, on les avait pris à côté de nous à chaque fois, donc on dormait jamais. Et mon petit garçon, lui, il a pas fait ses nuits avant 2 ans et demi. Mmh. Il se réveillait toutes les 2 heures les nuits. Mmh. À tel point que sa mère m'a dit, tu t'en occupes, je veux plus m'en occuper. Et donc, moi, je m'en occupais. Et on avait été voir une psychologue, et elle nous avait dit, vous savez, le plus simple, vous le laissez crier. Bon, très bien. Donc, un jour, on l'a laissé crier, 2 heures, 2 heures et demie. Au bout de 2 heures et demie, je vous dis, je tenais plus, j'ai été le voir, il était chaud et tout. Il n'en pouvait plus, j'ai cru qu'il allait mourir. J'ai dit, plus jamais je ferai ça.
Oui, vous avez bien fait.
Et j'ai dit, tant pis, je m'en occuperai, je ne dormirai pas, mais je ne le ferai pas. La deuxième chose, c'est qu'un jour, j'ai pris mon petit garçon, il pleurait tellement. J'en pouvais plus, je l'ai attrapé, j'ai voulu le secouer. Et puis, j'ai dit, c'est pas possible. Je l'ai reposé dans son berceau. J'étais tout seul, je suis sorti, j'ai fermé la porte et j'ai fait un tour dehors. Mmh, eh bien, on ne parlait pas de burn-out à l'époque, mais en fait, je crois qu'on y était en plein,
oui,
tous les
absolument.
Deux. Et notre couple, d'ailleurs, en a pâti puisqu'on a explosé. Depuis, on s'est séparés, quoi, et voilà ce qui s'est passé.
Et ça a duré combien de temps, Henri, cette situation infernale ?
Ça a duré 3 ans. Mmh. Oui, 3 ans. Avec ma fille, ça a été assez rapide. Parce que très vite, ça allait mieux. Mais mon garçon, lui, il a pleuré pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et je vous assure, il pleurait toutes les heures et demie. J'allais le bercer, je le rendormais. Et il fallait surtout pas qu'il y ait une marche qui craque ou un truc comme ça. Sinon, il repleurait. Ça a été terrible. Terrible.
Merci beaucoup, Henri, pour ce témoignage assez terrible. D'ailleurs, Liliane Holstein, quel enfer pour des couples quand ça se passe de cette manière-là?
Oui, c'est véritablement un enfer. Mais c'est vraiment un cercle vicieux parce qu'en fait, les enfants sont tellement, et notamment les bébés, sont tellement, tellement connectés au fonctionnement psychique des parents qu'ils vont sentir vraiment les moindres difficultés psychologiques chez les parents. Et il suffit qu'il y ait une difficulté dans le couple, une problématique d'épuisement, de problématique quelconque dans le couple, les enfants vont le sentir. Et même des tout petits bébés vont monter la garde en quelque sorte, vont s'empêcher de dormir, vont finalement attirer l'attention sur eux en permanence pour détourner l'attention des parents de l'un et de l'autre, de l'un sur l'autre. Donc vous voyez qu'en fait, les enfants, quand ils sont infernaux comme ça, difficiles, finalement, bizarrement, on peut dire que c'est un acte d'amour pour leurs parents. Ça paraît bizarre de dire ça comme ça. Mais c'est vraiment une manière pour eux.
Une manière qui dit je sais que tu vas pas bien.
Je sais donc, que tu vas pas bien.
Ma manière de le montrer, c'est de pleurer comme un fou, quoi.
Exactement. Et puis de détourner les parents l'un de l'autre quand il y a un dilemme ou une difficulté.
Donc ça veut dire effectivement, c'est ce que disait Henri, quand on le laisse pleurer, ça ne
résout
rien,
pas le problème.
En fait.
Non, pas du tout. En fait, il faut parler au bébé, il faut parler aux enfants. Françoise Dolto le faisait très bien. Et en tant que psychanalyste, je le fais aussi beaucoup. Et j'apprends aux parents à parler à leur bébé, à les rassurer et surtout à venir résoudre leurs problèmes très souvent qui sont liés au couple ou parfois des problématiques plus anciennes. Parce que la parentalité, finalement, ça vient réveiller aussi des problématiques qu'on a pu connaître dans sa propre enfance et qui réémergent à ce moment-là d'une façon tout à fait inconsciente. On ne comprend pas pourquoi on a tel ou tel malaise, telle ou telle difficulté, mais les enfants, eux, le sentent. Ils sentent, ils ont un système Wi-Fi intégré. Et ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc ils sont parfois difficiles.
Il y a aussi quelque chose, Liliane Holstein, dans ce que raconte Henri à l'instant, qui dit, à un moment, je suis tellement exaspérée que je me sens capable de violence, donc je ferme la porte, ce qui est assez courageux de le dire,
parce que c'est...
Mais oui, ça arrive, et dans ces cas-là, effectivement, laisser l'enfant aller faire un tour, alors ça ne dure que 5 minutes, évidemment, j'entends bien, on ne laisse pas un tout petit bébé tout seul, mais c'est important aussi, visiblement.
En tout cas, demander à un autre parent, peut-être même à un voisin, une grand-mère, un grand-père, peu importe, de venir prendre le relais. Mais en général, quand on se sent mal comme ça, ça se joue en quelques secondes. Donc il faut vraiment demander au conjoint, quelqu'un de très proche, de prendre le relais et sortir. Vraiment sortir. Ça va couper le système infernal qui s'est mis en place.
Bonsoir, pardon.
Allez-y.
Vous vouliez finir,
oui,
pardon.
Aller faire un tour, revenir. Le problème sera déjà beaucoup plus doux après.
Voilà, aller faire un tour, revenez. Ne partez pas trop longtemps
quand
même.
Non, pas trop longtemps.
Voilà, mais
prévenir qu'on revient.
Et voilà, dire au bébé qu'on revient. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue Sophie, on vous écoute, allez-y.
Je rebondis vite sur ce qui a été dit.
Allez-y.
Juste avant, à propos du besoin de cadre, ça résonne pour moi en tant que prof, parce que je me souviens que les garçons les plus difficiles que j'avais dans ma petite ville de garnison, ceux qui se tenaient le plus mal, qui étaient les plus durs à cadrer, très souvent avaient comme projet de rentrer dans l'armée. Donc, la demande de cadre, elle était bien là quand même.
Tout à fait.
Voilà, ça c'est une chose. Et puis après, je disais que en tant que maman, en tant que prof, évidemment, tout ça, ça fait écho chez moi, cette histoire de d'assumer tous azimuts, hein, et que je pense que on a une société qui met une pression terrible sur les enfants, les parents, parce que on est tous bien imprégnés de l'idée que peut-être il n'y a pas de place pour tout le monde. Et qu'il faut que les enfants fassent des langues vivantes, fassent des maths, fassent du sport, fassent de la musique, etc., etc., etc. Ce qui fait qu'à l'école, ils se retrouvent avec des programmes ingérables, où ils n'ont pas assez de temps pour faire tout ce qu'il faudrait faire. Que les parents qui essayent de tout faire, de nourrir leurs enfants au maximum, en leur faisant découvrir le maximum de choses, en les accompagnant sur plein d'activités scolaires, extrascolaires, les devoirs et le reste, en dehors des devoirs, je pense que ça met une pression d'enfer au môme, aux parents, puis c'est vrai à l'école aussi, parce que les collègues instituts, des fois, ils ont l'impression de ne pas pouvoir réussir à tout faire, et ils n'ont pas tort, parce que c'est juste pas possible. Mais on voudrait que nos gosses, ils pratiquent deux langues vivantes dès la primaire, qu'ils fassent du sport, de la musique, des maths, enfin, que sais-je encore. Voilà, ils sont comme les grands, ils ont 24 heures dans une journée, et les grands qui essayent de compenser rament un peu, un coup dans le vide, un coup dans l'air, un coup dans je sais pas quoi, mais ils ont du mal, et la pression, elle est très très forte, c'est une pression sociétale quand même qui est là, je crois.
Merci beaucoup, Sophie, elle a raison, Sophie Lilianel-Holstein, s'il fait pas d'anglais, il réussira pas dans la vie, même s'il a que 6 ans, donc on se dépêche, s'il fait pas de musique, c'est pas bien, parce que les petits amis font de la musique, et puis il faut que le clown soit vachement bien pour l'anniversaire, tout ça c'est terrible pour
exactement,
tout le monde en fait.
Effectivement, il y a une pression colossale déjà dans la vie des adultes. Les adultes au niveau professionnel sont obligés d'être tout le temps au top niveau. Il y a une pression sociale infernale. Il faut vraiment... La pression sociale impose vraiment d'être toujours au top, mais ça rejaillit sur les enfants.
Mais c'est la pression qu'on se donne aussi.
Oui. C'est vraiment un piège infernal. C'est vraiment un piège infernal. Dans les années 80, Pink Floyd avait sorti un disque qui s'appelait The Wall, où on voyait des gens passer dans une moulinette et les enfants, etc.
Leave your kids alone.
Exactement. Mais en fait, on y est, quoi. Et les enfants vivent la même pression que les parents. Et les parents, sans le faire exprès, entraînent leurs enfants dans ce cercle infernal.
Mais parce que moi, je me souviens, j'ai été petite comme tout le monde. On nous envoyait jouer dehors avec mon frère.
Et vous envoyez beaucoup des enfants dehors maintenant.
Un ballon et puis débrouillez-vous avec ça.
On n'en voit plus des enfants dehors. Ils sont tous dans des activités, ou sont en train de jouer avec leur console, etc.
Faut pas s'ennuyer.
C'est génial. De s'ennuyer, c'est hautement créatif de s'ennuyer.
En vieillissant, je peux vous dire, je m'ennuie super bien, vraiment. Bonsoir Bernard.
Bonsoir.
On vous écoute Bernard, allez-y.
Je voulais parler de mon expérience personnelle. J'ai élevé pour des raisons diverses mes enfants seuls, mes deux garçons, et je leur ai fait une proposition d'éducation peut-être particulière, en cela que dès qu'ils sont arrivés en âge d'aller au collège, vers 6e, 5e, etc., je les ai laissés être responsables d'eux-mêmes, à savoir qu'ils s'occupaient totalement de leur chambre, de leurs vêtements, des achats dont ils avaient besoin. Je leur ai appris à faire la couture, à faire de la lessive, etc. Et c'était leur souci. C'était plus le mien.
Donc ils avaient quel âge à peu près? Vous dites quoi? Collège, tout ça, donc 13-14 ans, c'est ça? Ça commence à peu près là ou un peu plus tard?
Ça a commencé à 11-12 ans.
11-12 ans, carrément, pardon.
Oui.
Et ça a marché, Bernard, apparemment.
Ça a marché. Je dis pas que quelquefois il y a eu un coup de pouce dans la mesure où ils ont été obligés de partir au collège avec un vêtement sale. Et ils se sont rappelés que c'était à eux de le laver. C'est arrivé une ou deux fois, après ils étaient guéris. Hein. Et je leur ai montré également comment ça me permettait, moi, de leur expliquer les difficultés que je pouvais avoir en étant seul pour tenir la maison. Parce que, à plus petite échelle, ils avaient le même souci.
Bernard.
Je leur expliquais également que moi, j'avais besoin de moments de repos. Et j'en avais un auquel j'étais très attaché, c'était le dimanche soir. Le dimanche soir, c'était mon moment de repos, et je ne préparais pas à manger, par exemple. Donc c'était chacun pour soi.
Et vos enfants ne sont pas morts de faim, voilà.
Ils sont pas morts de faim, ils ont mangé des sandwichs au début, et puis après, y avait bien sûr tout ce qu'il fallait dans la maison. Et après, ben, ils se sont mis à faire la cuisine. Et maintenant, bon, ils sont grands, ils ont plus de 30 ans. Mais ils savent tenir une maison, ils savent s'occuper d'une machine à laver, faire le ménage, faire la cuisine. Et je pense que c'est bien.
Ben, on pense tous que c'est bien. Oui. Et mettez-les sous verre, vos enfants, Bernard. Merci beaucoup pour votre témoignage. On parlait de fixer des cadres. Ben, c'est un sacré cadre qu'a fixé Bernard, mais apparemment un cadre qui fonctionne.
Oui, bien sûr, puisqu'il les a responsabilisés des tout jeunes. On oublie souvent dans nos sociétés ultra privilégiées que dans la plupart des pays de cette planète, les enfants dès l'âge de 10-12 ans ont des responsabilités importantes. Ils s'occupent de frères et sœurs, ils travaillent souvent pour tout le reste de la famille. Voilà, c'est important de responsabiliser les enfants, de leur apprendre. Ça fait partie de l'éducation, le cadre.
Puis ça peut être ludique aussi, c'est pas une corvée,
sûr,
comme on disait
sûr,
autrefois.
Mais absolument, apprendre aux enfants à cuisiner, à s'occuper de leur linge, etc., de leur chambre, c'est fondamental, c'est important.
Bonsoir Henri.
Oui.
Bienvenue Henri, on vous écoute.
Bonsoir. Oui, c'est intéressant, le dernier interlocuteur, il a dit quelque chose, si vous voulez, c'était du tout au contraire, alors vous ne voudrez pas. Il a dit, c'était dans un cadre très particulier, hein, le sien, il a dit c'était cette phrase, chacun pour soi, entre eux. Et alors, moi je voudrais simplement apporter un petit point de vue, si vous voulez, mais un peu bisounours, c'est volontairement bisounours.
Allez-y, je vous en prie.
Je suis des grands-parents, si vous voulez, c'est les grands-parents dont on vous a parlé un petit peu. Il est parlé, et c'est le thème de ce soir, du burn-out. C'est une maladie, le burn-out, alors donc c'est normal que tout ça soit très sérieux, mais n'oubliez pas qu'il y a des grands-parents et qu'il y a un problème avec les grands-parents, c'est la dichotomie entre Paris, où les grands-parents sont peu utiles parce que les distances sont longues et que tout le monde travaille et que simplement, il est géographiquement difficile de se rejoindre. Mais n'oubliez pas la province quand même, où les grands-parents, dans beaucoup de cas, habitent à des proximités, à 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure.
Henri, pardonnez-moi, on peut aussi avoir un grand-père qui habite Montpellier et habiter soi-même à Perpignan, et ça rend les choses tout aussi compliquées qu'à Paris.
Mais une majorité de jeunes ménages travaillent, si vous voulez, à Paris, quand ils viennent en province, vont chez eux, si vous voulez, et c'est une nouvelle vie, et les provinciaux qui vivent toujours en province, ou dans la même région, dans le même ont une vie complètement différente. Les parents, les beaux-parents rendent non seulement des services et tout ça, mais ce que je veux dire, ils ne sont pas là pour faire de la discipline, ils sont là pour être joyeux, pour être tendres, pour être amusants, pour faire rire leurs petits-enfants, et non pas chacun pour soi, vous voyez cette phrase absolument...
On a bien compris Henri, voilà. Jusqu'à quel point visiblement vous aimiez vous être un grand-père et on est content pour vous. Tiens, je voudrais ajouter à ce que vient de dire Henri, ce mail qui vient de Bruno qui dit « Je suis grand-père de 3 enfants de 10, 8 et 4 ans, dont les parents travaillent tous les deux, attendent beaucoup aussi d'eux-mêmes et de leurs enfants, d'où l'exigence de meilleurs résultats scolaires, d'activités multiples, etc. et finalement fatigue physique, nerveuse pour tout le monde. Doit-on tant demander aux enfants ?» Une après l'autre, et oui, évidemment que la présence des grands-parents, c'est extrêmement important. Ce n'est pas le cas pour tout le monde.
Oui, c'est même de plus en plus rare. Oui.
Et alors, présence importante pour les jeux, comme le dit Henri, pour jouer les bisounours, mais aussi pour reposer, il faut le dire franchement, pour reposer les parents aussi de temps
en
temps.
Tout à fait, tout à fait. Mais ces petits-enfants ont vraiment beaucoup de chance, mais c'est plutôt rare.
De plus en plus rare que les parents, que les grands-parents soient à proximité.
Oui, les familles sont de plus en plus éloignées, explosées dans tous les coins du pays. Et c'est très difficile parce que, en fait, les parents n'ont pas de relais. Ils sont tout le temps sur la brèche, ils n'ont pas de relais. C'est difficile, le prix des nounous supplémentaires, c'est tout un coup. Donc, ils ne sortent pas ensemble, ils sont tous les week-ends avec leurs enfants, c'est très difficile.
Tiens, ce message sur franceinter.fr qui va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure et ce que nous disait Bernard, je crois. Ce fameux burn-out des parents n'est-il pas le fait aussi des parents eux-mêmes? Le terme d'autorité parentale serait-il désuet? Intéresser les enfants le plus tôt possible aux réalités de la vie, participation aux tâches ménagères, à l'élaboration du repas du soir, etc. me semble préférable aux écrans multiples qui leur sont donnés bien trop tôt. Bien trop tôt, ça participe aussi à ça ou pas?
Oui, bien entendu, on le sait. Hein, les écrans sont les nouvelles nounous de substitution. Hein, c'est tout à fait évident. C'est vraiment un problème. Rien ne fait plus plaisir à un enfant, et vous pouvez en faire l'expérience si vous avez des jeunes enfants, que de les prendre dans une cuisine et de leur apprendre à faire la cuisine, que de regarder la nature avec eux, d'aller se balader avec eux, de regarder des livres sur les animaux, etc. C'est faire quelque chose avec les parents, il n'y a rien de plus bénéfique pour les enfants. Mais le problème, c'est que les écrans remplacent ce que les parents ne peuvent pas faire, puisque les parents n'ont plus de temps. La plupart des humains actuellement courent après le temps, et c'est bien la problématique de notre vie actuelle.
Bonsoir Claire, il paraît que vous étiez en voiture. Bonsoir. Et que vous êtes garée, alors allez-y, profitez-en.
Je me suis garée, oui. Juste pour témoigner, j'ai deux enfants de 12 et 14 ans en garde alternée, et je suis ravie quand ils arrivent chez moi pour passer la semaine. Et autant je suis ravie aussi quand ils partent chez leur papa, parce que moi ils m'ont épuisée pendant la semaine, et c'est logique qu'ils m'épuisent parce qu'ils ont 12 et 14 et qu'ils sont très demandeurs, et je remplis mon rôle de maman à plein quand ils sont là. Et je suis heureuse qu'ils partent, parce que je vais pouvoir me recharger en énergie, je vais pouvoir avoir une vie sans enfants, avec mon nouveau mari, de couple, et me rebooster pour que quand ils arrivent la semaine suivante, je sois reposée et dispo.
Voilà, aucune culpabilité, Claire, c'est ce que vous dites.
Et surtout, c'est un discours qui passe souvent mal quand j'en parle à des collègues, à des amis. Dire que je suis heureuse que mes gamins soient pas avec moi, dire que je suis heureuse qu'ils partent, ça passe encore mal.
Ah là, vous venez d'avoir un double appel, je crois que c'est vos enfants qui vous appellent, Claire. Ils vont changer votre semaine, ça va être terrible. Et moi, ça m'intéresse ce que vous dites sur le regard que peuvent... Alors vous, visiblement, ça vous est égal et vous avez bien raison, mais sur le regard que les autres peuvent porter sur vous, c'est quoi cette mauvaise mère, en gros? C'est ça l'idée, qui est contente
c'est
de
ça.
Voir ses enfants partir.
Je passe presque pour une mauvaise mère qui n'est pas inquiète quand ses enfants partent. Je sais mes enfants complètement épanouis quand ils sont chez leur père et en sécurité, donc j'ai aucune inquiétude. Limite, j'y pense pas quand ils sont pas avec moi, et je me culpabilise pas de ça. Parce que moi, je suis bien dans ma vie et eux, ils sont bien dans leur vie.
C'est parfait, c'est très
bravo,
équilibré.
Claire, bravo, Liliane Holstein, vous êtes contente de ce témoignage
tout
de Claire.
Fait,
mais effectivement, surtout pas de culpabilité, en
absolument.
Fait. Claire, à nouveau, bonsoir.
Claire, mais sans...
Mais je vois bien que vous êtes un homme... C'est rare, mais ça existe. On vous écoute,
ah oui,
Claire,
c'est
allez-y.
Très rare. On doit être quelques-uns sur la planète.
Voilà, faites un groupe.
Voilà.
Allez-y, on vous écoute.
Alors, pour ce qui me concerne, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que le problème avec les enfants n'avait pas... Enfin, disons qu'on a eu, comme tous les parents, des soucis avec nos enfants, bien évidemment. Mais en dehors de ça, les équilibres ont été très vite placés, en ce sens que, dès le départ, j'ai dit à mes filles, sachez une chose, les enfants, votre père n'a aucun scrupule. Donc, ça voulait dire par là que quand bien même vous envisagez de me faire monter au rideau et ceci et cela, ça me laissera froid comme la glace et vous n'aurez pas d'atteinte sur moi. Et ce qui fait qu'en fait, les relations ont été tout de suite très équilibrées.
Mais ils ont tenté quand même, ils vous ont cherché ou pas? Est-ce qu'ils ont été mettre la main sur le fourneau pour voir si c'est chaud quand même avec vous?
Non. Il n'y a jamais eu de... Disons que ça a eu le mérite, en posant les équilibres dès le départ, de ne pas avoir de problème d'autorité. Il n'y a jamais eu de soucis. On s'adore, on se papouille, ça n'empêche rien. Elles ont maintenant 12 et 14 ans, on s'éclate. Mais on n'a jamais eu ce souci, cette pollution par l'invective, par le... comment dirais-je, des rapports étrangement perturbés, quoi. Les règles du jeu ont été établies dès le départ. Ma fille aînée chouinait un peu au départ. Je lui dis, écoute, t'as aucune raison de chouiner, mais je vais t'en donner une. Donc, ce soir-là, je lui ai mis une fessée. Je lui dis, là, par contre, tu vois...
Là, tu peux plus... là maintenant, tu sais pourquoi tu pleures.
Là, c'est une très bonne raison de chouiner. Et depuis, elle a pu chouiner, elle a compris, quoi. Et donc, en fait, ça s'est passé très calmement. Il n'y a pas de souci, quoi.
Et alors, votre fille, elle a quel âge à ce moment-là? À quel moment on peut le comprendre, ce discours-là?
Oh, bah, elle avait quel âge? Ma fille, elle est sortie du ventre de sa mère, je lui parlais déjà. J'ai toujours considéré que je parlais à une personne intelligente. Donc, elle avait quel âge? Elle était debout dans sa chambre, j'avoue encore. Elle avait peut-être 4 ans. Et j'ai dit, écoute, maintenant, je vais te donner une bonne raison de chouiner. Et je comprendrai, parce que moi-même, on m'aurait fait ça, j'aurais mal. Et là, je comprends. Et elle a compris. On a toujours fonctionné à la raison, quoi, en fait, tranquillement, quoi. Ni plus ni moins, du bon sens et de la raison. Et puis avec ça, en fait, on est la boutique. C'est assez simple, en fait, la vie.
Et vous en avez combien, des filles, Claire?
J'en voulais 15, mais ça, c'est pas fait.
Non, ça aurait peut-être été plus difficile, vous nous auriez appelé pour autre chose. Et merci aussi pour ce témoignage, Claire. À partir de quel âge, effectivement, on peut donner une consigne claire, comme ce que dit Claire, justement, et un enfant comprend réellement, voilà comment ça va se passer, ce sera sera comme ça et pas autrement.
Mais très tôt, puisque dès qu'un enfant commence à marcher, il va commencer à vouloir tester les divers endroits de la maison. Et c'est une manière pour lui de voir ce qu'il peut faire et ne pas faire.
Alors justement, est-ce qu'il faut le laisser mettre la main sur le fourneau pour voir si c'est chaud ou pas?
Ah non, je pense pas. Il faut vraiment lui expliquer. On peut peut-être approcher pour lui montrer que c'est chaud, mm-hmm. mais il faut pas tenter des expériences de ce
genre.
Alors,
c'est une métaphore choses moins graves que de se brûler au troisième degré.
Mais pour revenir à la problématique des parents qui souffrent de burn-out parental, le problème, c'est que ces dernières décennies, on a mis les enfants vraiment au centre de tout. Mm-hmm. Et les enfants sont placés vraiment sur le même registre que les adultes. C'est vraiment un problème, parce que les enfants ont vraiment besoin de se sentir à leur place d'enfant et de sentir qu'ils ont des parents, c'est-à-dire des adultes solides, puissants, tendres, mais charismatiques, et qui sont capables de les bloquer dans les moments où ils auraient tendance à déborder. C'est quelque chose d'extrêmement équilibrant, il faut vraiment insister là-dessus. C'est quelque chose qui va calmer automatiquement les enfants qui sont pénibles, difficiles. C'est d'avoir des parents qui sont bien solides, qui tiennent la route, des parents cohérents, et bien entendu qui s'entendent, parce que les enfants ont besoin de voir leurs parents s'aimer. C'est quelque chose d'extrêmement équilibrant. C'est ce qui implique qu'il ne faut pas avoir peur de se tendresser devant les enfants, de s'embrasser, de dire des mots d'amour, de se parler gentiment. C'est extrêmement équilibrant pour les enfants.
Bonsoir Agnès.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Agnès. Vous serez la dernière, allez-y.
Oui, alors donc, moi j'étais étonnée ce soir de ne pas entendre parler de certaines choses qui peuvent être mises en place par les parents. Je suis maman solo et le burn-out, je l'ai connu dès la grossesse. Et on n'a pas parlé ce soir, par exemple, de l'importance de la nutrition. Quand on est parent, qu'on allait ou qu'on donne le biberon et qu'on doit se réveiller plusieurs fois la nuit pour tenir le coup, il faut être bien nourri, pas seulement en quantité, mais en qualité. Moi-même, dès ma grossesse, j'ai remarqué que j'avais très peu de conseils à ce niveau-là de la part des professionnels de santé qui me suivaient. Et j'en ai été assez étonnée. J'ai eu des conseils grâce à des mamans américaines qui m'ont permis de bien tenir. D'autre part, on a mis en place le cododo. Alors il y a des détracteurs.
Il y a des bas.
Moi, je peux dire que ça a vraiment sauvé l'allaitement. Et aujourd'hui, j'ai un petit bébé qui est très sociable, qui a beaucoup de confiance en elle-même. Et le cododo, ça permet aux parents de dormir un petit peu mieux et à l'enfant également de dormir mieux.
Combien de temps le cododo, comme vous dites, Agnès?
Ma fille a un an et nous sommes toujours en cododo. D'accord. Et elle dort très bien. Elle ne se réveille pas plusieurs fois la nuit en pleurant dans sa chambre toute seule. Elle est rassurée. Elle est dans la chambre de sa mère et elle fait de très bonnes nuits et moi également de ce fait.
Et vous pensez que vous allez continuer le cododo jusqu'à quel âge à peu près? Est-ce que vous l'avez déjà évalué ou pas?
Non, je pense que il y aura un moment où l'enfant sera en mesure d'exprimer que elle est prête à dormir seule. Elle a une petite chambre qui est prête pour elle avec un lit et voilà, c'est là et c'est présent. Et je dois avouer également que l'allaitement, ça a été aussi quelque chose de très bien parce que l'intérêt de l'enfant vient en premier, non seulement d'un point de vue nutritif, c'est quand même ce qu'il y a de meilleur, mais en plus de ça, on n'a pas de biberon à laver, à stériliser, à préparer, à transporter.
Merci beaucoup Agnès, il nous reste très peu de temps. Deux choses rapidement, Liliane Holstein. D'abord, l'allaitement, effectivement. Moi, ça m'ennuie qu'on culpabilise les mères qui n'allaitent pas leurs enfants, en fait.
Oui, bien sûr, l'important, c'est d'être en équilibre et d'être bien dans le mode d'alimentation. L'allaitement, c'est vraiment, bien entendu, ce qu'il y a de plus formidable, inventé par la nature pour faciliter la nourriture des enfants en bas âge. Mais si une mère est en difficulté ou si elle n'en a simplement pas envie, si elle donne un biberon en toute tendresse et tranquillité psychologique, tout se passera très bien. Et
juste un tout petit mot, il nous reste 8 secondes. Le cododo, vous, la psychanalyste, vous dites faut voir ou...
Non, parce qu'il n'y a que dans nos pays, finalement, où on met instantanément un enfant dans une autre chambre. Dans la plupart des pays de la planète, les mères dorment avec leur bébé pendant pas mal de temps. Mais il ne faut pas que ça dure non plus une éternité, sinon ça devient perturbant pour l'enfant.
Voilà, et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Le 18-20 de France Inter. Tiens, c'est Marie-Claude Pinson, c'est Nathalie Poitvin, c'est Amélie Stadelmann, c'est Antoine Liffaut et c'est Hélène Biziot. Bonsoir Hélène.